J'aimerais partager avec vous ce soir un thème éminemment positif de nouveau. J'aime ce qui est positif. Et suivant l'attitude que nous adoptons, eh bien, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'aimerais lire avec vous, tout d'abord, dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre... Alors, voyons, attendez, que je prenne... voilà. Dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre 1er, versets 32 à 33, qui nous dit ceci. L'égarement des stupides les tue, et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Que voilà une belle promesse, n'est-ce pas, pour chacun de nous. Et puis, un autre texte, dans le livre de Josué, c'est au début du livre, et c'est un texte qui est très fort, qui a valu pour Josué, qui vaut pour nous la même chose aujourd'hui, voilà. C'est Josué 1.8. Ce livre de la loi de Dieu, ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui n'a pas envie de réussir? C'est pas normal de ne pas avoir envie de réussir. C'est tout à fait légitime d'avoir le désir de réussir. Et l'échec, je le crois profondément, n'est pas dans la pensée de Dieu. Sauf si c'est une étape vers mieux. Parce que ça peut être une école. N'est-ce pas ? Je peux apprendre beaucoup d'un échec. Mais alors, il faut l'attitude qui convient. Et pas me désespérer et pleurnicher, être un pauvre caliméro. N'est-ce pas ? Tout le monde est méchant avec moi, personne ne m'aime. Enfin, voilà. La bonne attitude. Alors, Jésus, j'aimerais le souligner, a dit, vous le savez tous, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je désire toujours que ce soit vrai pour nous et pour moi. Des fleuves, c'est pas juste des ruisselets. Les promesses de Dieu sont des promesses. C'est pas la théologie de l'abondance, mais sont des promesses quand même de grandes bénédictions à tous égards. On constate d'ailleurs, parce que les Américains sont les champions des statistiques, ils ont surtout des moyens que nous n'avons pas forcément en Europe pour réaliser des statistiques sur un très grand nombre de personnes. Mais il a été mis en évidence que, par exemple, les croyants vivent en moyenne 5 ans de plus que le reste de la population. Ceux qui prient, qui lisent la Bible, vivent en moyenne 5 ans de plus que le reste de la population. Et je crois que c'est tout à fait logique. Il y a un certain nombre de conditions, il y a des lois qui régissent au fond toute chose dans cet univers. Et si vous êtes dans la ligne des lois de Dieu, eh bien, vous en aurez des tas de récompenses et de bénédictions. Moi, je sais très bien qu'avec les petits problèmes de santé que j'ai eus, et j'ai encore un peu, eh bien, si j'étais un fumeur invétéré, je suis persuadé qu'il y a déjà belle durée que je ne serais plus de ce monde. Hmm. Ou bien alors, abus systématique d'alcool. Vous savez qu'en Russie, la moyenne d'âge à laquelle arrivent les hommes grands buveurs de vodka, c'est pas grand-chose, c'est 50 ans. Eh oui. Bon, un petit verre de vodka, je vais pas le refuser si vous me l'offrez. Mais je prendrai un petit verre. Surtout avec des problèmes de foie, faut pas pousser. Mais ce sont des réalités incontournables, mes amis. Et vous relisez le livre des Proverbes, mais que de bons conseils. Par exemple, un qui m'a toujours bien convenu. Mange du miel, mon fils, car il est bon. Bon, avec modération quand même, hein, surtout si vous avez une tendance un peu diabétique. Mais vous savez que vous avez deux substances qui combattent efficacement le cancer du sein, mesdames, dans le miel. Et puis, le miel est éminemment désinfectant. Vous avez une plaie, vous avez un problème, un ulcère, vous mettez du miel dessus, vous verrez. De même que les huiles de mon cher frère Frédéric, moi je me suis guéri des ennuis à la jambe droite pendant toute une période. Après ma douche, tous les matins, je m'enduisais de cette huile. Ça n'a pas de problème, cette huile sèche, donc ça ne va pas tacher vos vêtements. Mais en attendant, les problèmes sont partis. Hein? Vous voyez dans l'histoire du bon samaritain, qu'est-ce qui est prévu pour le pauvre homme là qui a été maltraité? Eh bien, du vin pour l'alcool, pour désinfecter les plaies, et puis de l'huile, hein, qui fait son effet aussi cicatrisant et qui a plusieurs effets positifs. Voilà. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai toujours dit à mon médecin, qui est un frère de l'église d'ailleurs, mais j'ai toujours dit, tu sais, le lait et le miel, c'est forcément bon. Parce que quand il est question d'un pays où coule le lait et le miel dans la Bible, c'est synonyme de bénédiction. Alors il est d'accord avec moi, mais il me dit, prends pas trop de miel quand même. Mais, c'est des choses simples. Et il est dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mes amis. Soyons joyeux, soyez toujours joyeux, nous dit l'Écriture. Alors il y a des moments où il faut un peu se pousser, hein. Faut reconnaître, c'est vrai. Mais fondamentalement, vous savez bien que c'est vrai. Et il est dit encore beaucoup d'autres versets comme ça, notamment dans les Proverbes, de choses qui sont bonnes pour nos os, même. Hein. Alors, relisons ces textes, c'est tellement plein de la sagesse de Dieu, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Surtout si votre santé vous tient un peu à cœur. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se dit « comment vas-tu » C'est la première question qu'on pose en général dans nos pays, mais c'est universel. C'est parce que la santé, on sait très bien que c'est très important. Jésus est dans le croyant, celui qui a reçu le salut est habité par le Saint-Esprit. Voilà. Nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui, disait Jésus. C'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, le premier verset lu, c'est celui que j'intitulerai « De l'assurance tranquille ». Et le second, celui du succès. Vous savez combien de fois on trouve le mot « succès » dans la Bible ? 19. 19. Alors, Oui, par exemple, il y a des textes qui vont vous aider si vous ne vous sentez pas très bien, etc. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit de celui qui s'appuie sur toi. J'ai connu le cas d'un frère qui a eu un grave problème cardiaque. On pensait plus ou moins qu'il ne s'en relèverait pas. Et il a crié au Seigneur. C'est un homme très pieux. Il a crié au Seigneur et il a reçu ce verset. Et il a dit, eh bien, j'entre dans cette vérité de la parole de Dieu. Et il était guéri. La parole de Dieu est une parole qui guérit. Alors, vous savez, je parle d'assurance. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose. C'est que les Suisses sont statistiquement les champions mondiaux, toutes catégories, dans le domaine des assurances. Et il y en a de toutes sortes. Oh, bien sûr, assurance maladie, ben ça va de soi, elle est obligatoire. Assurance vie, assurance de voyage, assurance accident. Et puis, vous pouvez multiplier ça très très longtemps. On peut même souscrire une assurance pour se faire rembourser ses vacances s'il faisait mauvais temps. Pas mal, ça. Eh bien, là, il nous est proposé par Dieu une assurance paix et tranquillité. Ça vous intéresse, une assurance paix et tranquillité? Eh oui. On a intitulé notre temps le temps du stress. Vous savez bien que le stress est tueur. Les conséquences du stress sont multiples, sont connues, répertoriées médicalement, ulcères d'estomac, voire des cancers, dépression, et puis la liste des maladies est longue. Je l'ai quelque part dans mes notes, c'est impressionnant ce que le stress engendre. Puis le stress, ben, on est facilement stressé. Moi, je donne le volant à ma femme si on est, par exemple, autour de Paris, autour de Lyon, parce que moi, je supporte pas ce truc d'être par choc comme par choc. Un papy suisse, il ne supporte pas ça. Hein? Alors c'est ma femme, alors elle n'a peur de rien. Bon, pas de problème pour elle. Elle aime même ça. Mais moi je déteste ça. C'est générateur de stress, entre autres. Alors, Dieu lui nous propose une assurance paix, tranquillité. Et là, en plus, c'est gratuit. Parce que les assurances ne sont pas gratuites, vous le savez bien. Ouh. Et là où nous avons échoué, peut-être, Dieu peut réussir. Même parfois, ce que nous nommons échec, échec, il se peut que Dieu, lui, de son côté, le nomme malgré tout réussite. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Des choses qui surviennent et puis qui nous paraissent oh là 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 là, avec le recul, vous voyez qu'il y avait la main de Dieu et que ça a tourné en bien. En tout cas, j'ai expérimenté personnellement. Ouais. Sur le moment, c'est vrai que le chef ne veut pas plaisir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. La victoire, elle appartient au Seigneur et il veut nous la faire partager. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies? Eh bien, je crois que si nous voulons déjà le comprendre, il faut refuser la pensée de l'insuccès et de l'échec. Dans la pensée de Dieu, il y a la réussite. Jamais Dieu n'a pu penser, par exemple, qu'il échouerait. J'ai entendu un chrétien une fois qui a sorti une bourde pas possible, où il a dit « Si à cause de nous, le plan de Dieu échouerait. » Bah, tu te donnes déjà beaucoup d'importance, mon gars, parce que... Hein? C'est pas nous qu'on fera que le plan de Dieu réussit ou échoue, et Dieu ne peut pas perdre. Il y a d'ailleurs une orientation eschatologique dans le domaine de la prophétie aujourd'hui, qui s'est un peu répandue dans certains milieux, c'est le post-millénarisme. Alors là, c'est une position hyper, hyper optimiste, mais à mon avis, alors complètement fantaisiste. C'est que l'Église va tellement croître, puis elle sera tellement bien dans les temps qui viennent, que pour finir, le travail ayant été entièrement fait, le royaume de Dieu installé sur la terre, on pourra dire « Seigneur, viens » et il viendra. Aberrant. C'est pas comme ça que c'est prévu. Hein? C'est Jésus-Christ qui instaurera son règne ici-bas. Ouais. Mais c'est pas à nous qu'on va faire tellement bien. Hein? Voilà. Ferme assurance. Alors, je dirais encore. C'est vrai que quand on voit la situation actuelle dans le monde, on peut quand même avoir, par moment, l'impression d'échec. Parce qu'au départ, tout était bon, et même très bon, dans la création. Mais, vous savez, Dieu poursuit un plan, en dépit de tout, qui est de réussite finale et pas d'échec. Et nous sommes, vous êtes inclus dans le plan de réussite. À moins que vous décidiez d'être dans l'autre. Mais nous sommes inclus dans ce plan de réussite. Encore une fois, je dis que la non-réussite dans la durée, je ne parle pas d'un échec momentané ou je ne sais pas quoi, mais dans la durée n'est pas dans la pensée ni dans la volonté de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, nous dit la Bible. Dieu veut faire des choses encore plus grandes avec nous et avec vous. Ah, c'est sûr. Mais si nous comptons sur nos propres moyens, alors il est dit la sécurité des insensés les perd. Il y a des gens bien trop sûrs d'eux, alors, dans ce monde. Un compte en banque, un savoir-faire. Et puis, tout d'un coup, il y a tout système qui s'effondre. Et puis, il y a de quoi, quand on voit un petit peu la situation du système financier au niveau mondial, un certain nombre de prévisions que n'importe qui de logique peut faire. Ouais, mettre tant de confiance dans des actions ou autres, il y aura des fameux coups sur le nez. Hein. Je crois qu'on va vers des temps difficiles. Je le crois. Mais Dieu sera là, et c'est Dieu de victoire. Rien ne nous empêche, par exemple, d'avoir un tout petit peu de jugeote et de prévision. Par exemple, vous avez un coin de terrain, pourquoi pas faire un jardin potager. Finalement, c'est pas un péché. Vous savez que une surface de 100 mètres carrés, c'est pas grand-chose, 10 mètres sur 10, peut produire tous les légumes nécessaires pour une famille de 4 personnes. Alors, il faut faire avec beaucoup d'intelligence, avec réflexion, tel légume, on sait bien qu'il arrivera à maturité à tel moment, on sème, etc. Ben, je ne sais pas si c'est un jardin potager, je vous dis ça aussi. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est bon, les légumes que vous produisez vous-même? Pas de produits chimiques, rien du tout. Hein? Ou bien vous avez un verger, vous avez des arbres. Alors, c'est vrai, j'ai des pommes qui ont de la tavelure dessus. Elles ne sont pas si belles que celles que j'achète en magasin, mais elles sont goûteuses. Ah, c'est autre chose que des pommes qui ont traîné, hein, qu'on a irradiées encore pour qu'elles restent belles, etc., etc. Et c'est un tout petit conseil de sagesse, parce que la Bible est pleine de conseils de sagesse, pourquoi pas? Pas grave. Ou si même, vous n'avez pas peur des abeilles, et puis vous voulez mettre un rucher sur votre terrain, c'est pas bête, c'est bon le miel. Hein? Voilà, etc. Je crois qu'il y a quand même aussi des choses pratiques. Et puis ça fait tellement de bien le contact avec la terre. Moi, j'aime aller gratouiller la terre. Hein? Aller regarder tous les jours, quand je suis à la maison, je fais une tournée. Ouh, là, ça pousse déjà. Ouh, et puis là, je vois quelque chose d'intéressant. Puis là, je me dis, oui, il faut que je m'en occupe, il faut que je coupe ça, 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 etc. Mais ça me fait un bien. Je fais ça 10 minutes, je me sens beaucoup mieux. Vous savez, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bon, on va faire un article de théologie là-dessus. Mais il y a un lien entre la création et nous. C'est indiscutable. Alors, ça nous fait du bien. Déjà quand on fait le travail, et puis du bien quand on mange ces fruits-là. Voilà. C'est pour ça que je vous encourage dans ce sens. Il nous est dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. C'est beau ça. Et à Jacob, Dieu dit en Genèse 28, 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Dieu veut aller jusqu'au bout. Ici, c'était pour Jacob, mais pour vous, et pour moi aussi. Et là, il n'y a aucune pensée d'échec. Dieu utilisera le temps et les moyens qu'il faudra et il amènera son œuvre à la concrétisation parfaite. Alors, bien sûr qu'il faut de la patience parfois, exemple d'Abraham, hein, et beaucoup d'autres dans l'Écriture. C'est pas venu tout de suite. D'accord. Vous avez un ancien président de la République qui avait une parole qui était juste quand il disait laissez le temps au temps. Bien sûr, un légume ou un arbre ne vont pas pousser comme ça d'une seconde à l'autre, on le sait tous. Il y a là aussi des lois, mais ces lois sont belles, elles sont intéressantes quand on les étudie, vous savez. Dieu a un plan glorieux pour son Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Et je veux vous dire une chose, Dieu est persévérant. Ce qu'il veut faire, il le fait. 1 Samuel 18:5 nous présente un roi. David, hein? Enfin, il n'était pas encore roi au début du processus, mais il a fini par l'être. Il est dit qu'il avançait et réussissait partout dans toutes ses entreprises. Il plaisait à tout le peuple. Je crois que le peuple de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui marchent dans la victoire. Dieu souhaite encore une fois vous faire réussir. Excusez-moi de me répéter, mais je crois que c'est vraiment une pensée de Dieu très forte. Nous avons le texte d'1 Samuel 18, versets 14 à 15. Oui, alors c'est celui que je vous ai donné. Et je dirais que Je constate d'ailleurs dans l'Écriture que Saül lui-même, en voyant la réussite de David, avait peur de David. Pourtant David n'avait pas de mauvaises intentions. C'est Saül. Il n'était pas clair dans son cœur et dans sa pensée. Mais pas David. Et la condition d'une victoire définitive peut être parfois un échec momentané ou un recul apparent. Un homme très illustre, et pour lequel je dois bien le dire, de l'admiration, c'était le général de Gaulle, qui a dit un jour, nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Et c'est vrai que l'Église peut perdre des batailles, mes amis. On ne gagne pas toujours, surtout. Puis aussi, nos erreurs. On fait des erreurs d'aiguillage, des fois. C'est vrai. Mais la guerre est gagnée d'avance avec Jésus-Christ. On peut perdre une bataille, mais la guerre est gagnée. L'échec provisoire peut être l'occasion d'un brisement. Lorsque j'étais encore dans l'industrie horlogère suisse, j'ai été très très béni, très très vite je suis monté dans la hiérarchie, voilà. Et puis, j'ai eu au moins deux étapes importantes. Dans une première, j'avais un supérieur, mais qui ne parlait ni bien l'allemand, ni bien l'anglais. Donc toutes les grosses affaires qui venaient de pays anglophones ou germanophones, par la force des choses, alors que j'étais beaucoup plus neuf là, c'est moi qui étais obligé de les traiter. Et il a eu une peur que je lui prenne son poste, qui s'est arrangé pour tout doucement scier la branche sur laquelle j'étais assis. Alors j'ai vu son petit jeu, m'en suis pas fait, j'ai trouvé un autre poste encore bien plus élevé dans une entreprise, et puis c'était qu'une bénédiction pour moi. D'accord ? Mais j'ai eu un petit moment de déception quand même. Et ça a été l'occasion d'avancer, de progresser. Voyez des exemples bibliques maintenant. L'apôtre Pierre, il a été transformé au travers quand même d'un certain nombre d'échecs. Il s'est fait reprendre très sévèrement par Jésus. Arrière de moi, Satan. Moi, je ne veux pas qu'on me dise Satan quand même. Je trouve que c'est fort. Eh oui. Il avait dit, je ne t'abandonnerai jamais à Jésus. Amour éternel. Eh bien, vous savez l'histoire. Jésus l'avait averti. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. C'est arrivé. Et Pierre, qui était une forte personnalité, malgré tout, il était faillible et faible. Et en dépit de cela, dans son échec, Jésus ne l'a jamais abandonné. Il ne l'a pas abandonné et lui a apporté pardon, consolation, restauration, alors qu'il s'est repenti, c'est vrai. Et parmi les 120, Pierre a été rempli du Saint-Esprit après que Jésus l'ait entièrement réhabilité. Le psaume 1, verset 3 parle du juste. Et il dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Intéressant, ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le juste, d'après notre texte, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je ne veux pas du tout me mettre en avant, mais lorsque j'étais cadre dans l'industrie horlogère suisse, on avait la foire de Bâle, qui est une foire magnifique et très, très importante. Il y a des milliards et des milliards là-bas qui sont en jeu chaque fois. J'y étais pour mon entreprise. Et puis, j'avais des collègues, surtout si la journée avait été bonne, qui partaient, vous savez bien où, dans les bars à filles. Et j'ai toujours été clair, j'ai dit exclu, mes convictions ne me permettraient pas de vous suivre, c'est hors de question. Bon, sur le moment, j'ai produit une certaine surprise, puis après, on a respecté ma position. Et je préférais, il y a eu même un peu de jalousie à mon égard. Parce qu'est-ce que je faisais? Ben, si pendant la journée, j'avais fait une affaire de, je sais pas, avec 4-0 ou 5, avec des gros clients, par exemple en Amérique du Sud, eh bien, j'invitais le client, on allait manger un Chateaubriand, une merveille, un grand hôtel, et tout ce que vous voulez, on se privait de rien. Surtout un client, c'est faux. Hein? Mais 10 heures, je regardais ma montre, je faisais appeler un taxi pour le client, moi j'en faisais appeler un pour moi, et puis j'allais me coucher. Résultat des courses, le lendemain matin, qui était en pleine forme? À 8 heures, c'était moi. Puis les collègues, ils étaient rentrés à 6 heures, vous voyez comment. Ils étaient. Ils n'étaient pas beaux. Puis pas très lucides. Alors évidemment qu'il y avait des très bonnes affaires. Ben, elles tombaient sur moi à ce moment-là. Parce qu'on s'adresse plus volontiers à quelqu'un qui a l'air en forme, qui est souriant, qui est avenant, qui va. Que quelqu'un qui traîne par terre, qui, etc., qui a les yeux en bas la figure parce qu'il a fait la foire toute la nuit. C'est des expériences très concrètes que j'ai faites dans ma vie. Et vous savez, quand on est positif, puis en plus, excusez-moi de vous le dire, je suis suisse, en plus, tout ce qu'on m'avait donné pour... parce que... Vous ne faites pas des choses comme ça, des grandes foires internationales, sans que, ben, ma foi, la direction de l'entreprise vous ait mis un certain nombre de billets dans les poches. Alors plutôt que de les consacrer à des bêtises ou au mal, ben, j'ai rapporté à ma femme et pour mes enfants. Donc j'étais gagnant sur toute la ligne. Vous savez, marcher dans la voie des justes, c'est une grande bénédiction et ça garde de beaucoup de choses. Refuser d'entrer dans des tricheries. Certaines fois, j'avais eu un chef d'État à l'époque qui m'avait proposé pour un petit service que je ne voulais pas lui rendre parce que c'était une crapule et un bandit, de m'offrir une Mercedes blanche et $1 million sur un compte à numéro en Suisse. Et j'ai répondu à son ambassadeur, que je connaissais bien, qui d'ailleurs se disait chrétien évangélique, j'ai dit jamais, jamais, parce que si j'acceptais une offre comme celle-là, je ne pourrais plus jamais me regarder dans la glace en me rasant le matin sans cracher contre la glace. Alors, j'ai jamais eu une Mercedes blanche, j'ai jamais eu $1 million, mais je vous assure que je ne regrette pas mes choix. Je n'étais pas à vendre, et un chrétien n'est pas à vendre. Alors, évidemment, il y a un prix à payer, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je ne sais pas, peut-être qu'au ciel, j'aurai une soucoupe volante blanche. On verra. Voilà. Dieu souhaite que nous réussissions. Le psaume donc 1, verset 3, nous dit qui est le juste pour Dieu. est-ce qu'il faut faire ? Avec cette promesse qu'on donnera son fruit en sa saison et que notre feuillage ne se flétrira pas et que ce que nous faisons nous réussira. Le juste est donc celui qui ne marche pas selon le conseil ou la vie des méchants. Mais dans certaines circonstances, vous êtes seul de votre avis. Je rappelle une circonstance où dans un conseil d'administration, j'en étais le président, mais j'étais mis, mais platement en minorité. 5 voix contre 1000. Bon, ce que vous voulez. Bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, je ne changerai pas. Et je crois que ce sont des positions que nous devons des fois prendre. Évidemment, il y avait 5 perdus dirigés vers moi. C'était des pistolets, j'étais mort. Mais non, rien à faire. Je ne marche pas. Alors, effectivement, ça vous demande un certain courage. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ayez-le pour la gloire de Dieu. Le langage de l'échec, on le trouve chez les disciples, par exemple. En Matthieu 19, versets 27 à 28, un langage d'inquiétude, de doute. Et puis vous trouvez cette pensée, qu'est-ce qui va arriver? Quel futur avons-nous? Bah, c'est une des questions qu'on peut légitimement quand même se poser en période d'élection. C'est vrai. C'est humain. Mais les disciples, là d'ailleurs, s'enferment dans la chambre haute après la crucifixion. Mais voyez-vous, penser que Dieu peut échouer est une insulte à Dieu. Thomas, à un certain moment, a pensé, je suppose, que Dieu avait échoué quelque part. Désécurisé et inquiet, il a ressenti la mort de Jésus comme un immense échec. Il avait quand même suivi 3 ans. Puis ça finit par une mort ignominieuse sur une croix. Alors qu'il est déprimé, fortement, ainsi que sans doute les disciples, c'est compréhensible. Il n'avait pas du tout réalisé que dans cette fin terrible, il y avait en réalité une victoire formidable, c'était le salut éternel accompli. Et Jésus est apparu au milieu d'une situation d'insécurité et d'angoisse. En Jean 20, Thomas est finalement convaincu 8 jours après, après sa première apparition de Jésus aux autres disciples. 8 jours d'incrédulité. C'est des périodes dans la vie du chrétien qui sont quand même redoutables. Suite à un choc, suite à quelque chose. Ouais, ça peut être la perte d'un être cher. Où étais-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas intervenu. Qui n'a pas connu plus ou moins ce genre de réaction? Et une porte était ouverte dans le cœur et la vie de Thomas. Ce sont des situations qui sont dangereuses, dans lesquelles le diable va essayer de faire le maximum de dégâts. J'ai entendu des chrétiens déçus à juste titre dire « Puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber. » Ça, c'est bien. J'ai dit, qui c'est qui a mis cette pensée dans ta tête? Qui crois-tu? Voyons, le diable. J'ai dit, ben alors, pfft, tu chasses cette idée, tu la remplaces par une pensée de Dieu. Ah, c'est justement ce que le diable veut. 8 jours plus tard, Jésus est là, et dit une nouvelle fois « paix vous soit ». Il a certainement dit « shalom ». Thomas voit de ses yeux le Sauveur ressuscité. Et Jésus est allé au-devant de son doute. Et Thomas, le douteur transformé, va faire cette déclaration remarquable « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que Jésus est Dieu. Dieu glorifié éternellement. Il est le vrai Dieu. Et cette déclaration de Thomas est très importante. Elle en dit beaucoup les témoins de Jéhovah. Un peu lourd, je ne parle pas des musulmans. Dire à un homme, mon Dieu, c'est le blasphème. En attendant, Jésus était vrai homme, c'est vrai, mais il était vrai Dieu. Et Jésus leur dit en substance, jusqu'à quand resterez-vous dans votre incrédulité ? Dans l'endurcissement, il avait souvent parlé de cela, l'endurcissement empêche d'exaucer la prière. On l'a relevé, je crois que c'était hier, ce texte où il est dit que Jésus ne put pas faire beaucoup de miracles dans une région à cause de la crédulité des habitants. Vous pouvez empêcher Dieu de faire le travail qu'il voulait faire. C'est costaud ça quand même. Hein? Mais ça montre aussi notre responsabilité. Je disais il y a un petit moment qu'en saine théologie, théologie équilibrée, eh bien il y a toujours le côté de Dieu, qui est le plus important, je suis d'accord, mais il y a toujours aussi le côté de l'homme. Dieu a tout fait pour nous rejoindre en Jésus-Christ, mais encore faut-il saisir la main qu'il nous tend, sinon on passera à côté. Et vous pouvez multiplier les exemples dans la guérison qu'il te soit fait selon ta foi, etc., etc. Alors, l'obéissance est tellement importante. Moi, j'ai vu des personnes, et j'ai trouvé ça très triste, qui s'étaient convertis, qui venaient régulièrement à l'église, qui n'ont jamais voulu se faire baptiser par immersion. C'est profondément dommage. Elles sont passées à côté d'une grande bénédiction et puis d'une exigence de Dieu, de Jésus-Christ. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seulement, on ne va pas vous attraper par les cheveux puis vous tremper comme ça. C'est à vous à prendre la décision d'être baptisé. Mais s'il y a des personnes parmi nous ce soir qui sont croyantes et pas baptisées, mais ne tardez pas, Jésus va revenir. Il manquera quelque chose d'important quand même. Alors, vous avez tout à y gagner. D'accord ? Alors, faites-vous baptiser du baptême biblique. J'ai entendu des gens dans certains milieux, « Là, mais j'ai été baptisé à 5 ans. » Bon, oui, d'accord, c'est gentil. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? À quoi est-ce que ça correspondait ? Admettons qu'il y avait l'engagement des parents. Bon. Admettons qu'il y a eu la prière de l'Église. C'est pas sans valeur. Mais c'est pas un baptême. C'est une présentation humide. Voilà. Mais c'est pas un baptême biblique, mes amis. Et c'est pas parce que vous avez reçu vos 3 gouttes réglementaires sur la tête que vous êtes baptisé. C'est pas ça. Alors, je vous le dis vraiment de la part du Seigneur. Ne tardez pas à vous approcher du pasteur et de vous parler. Pour vous mettre en ordre aussi à ce point de vue-là. Alors, un jour, Israël reconnaîtra Jésus comme son Messie. La clé, c'est de le reconnaître comme Seigneur et Dieu. Et ce jour-là sera le grand tournant de l'histoire du monde. Mais aujourd'hui déjà, nous ne voulons pas laisser le destructeur, le diable, l'emporter. Nous croyons au roi de gloire. Dieu nous a sauvés avec une pensée de réussite et pas d'échec dans notre vie chrétienne. Puis si on tombe, ben il faut se relever. Le juste tombe 7 fois et se relève. Ben, elle s'est traînée par terre, puis gémir. Il faut reconnaître sa faute, demander pardon, puis il faut repartir avec le Seigneur. Voilà. Dieu nous a sauvés, donc, dans un but éminemment positif. Alors que le diable viendra toujours nous dire le contraire. Je ne sais pas si à vous, il vous parle, moi. J'aime pas quand il me parle, mais... Il est toujours là, quand même, pour nous susurrer quelque chose à l'oreille. Hein. J'ai déjà pensé à plusieurs situations bibliques. Je me suis dit, tiens, Daniel, qui était si fidèle. Mais quand il est attrapé... Et puis, quand on le jette dans la fosse aux lions, moi je suis sûr que le diable, qui était déjà actif à l'époque commune, lui a dit, tu vois ce que ça, tu vois le résultat de ta fidélité? Tu vois comme tu vas finir? Bon, tu es intervenu, magnifique, mais dans le moment. Hein? Et vous avez bien le diable qui vient vous susurrer des choses. Alors vous refusez la pensée du diable et vous la remplacez encore une fois par une promesse de Dieu. Alors, apprenez les promesses de Dieu. Quand vous lisez votre Bible, soulignez en particulier, par exemple, les promesses de Dieu, entre autres. Il faut que je conclue bientôt. L'œuvre que Dieu a commencée en nous, il l'achèvera.
Alléluia.
L'œuvre que Dieu a commencée en vous, il l'achèvera. Ça, c'est vraiment une promesse magnifique. Oh, il y a quelqu'un qui peut se dire, oh, avec moi, c'est pas bien réussi. Je me rappelle, j'avais parlé avec un vieux chrétien, c'était en Belgique. Invisiblement un homme fidèle. Même si, moi je sais pas si je vais, je crois que je vais pas être sauvé, je suis trop mauvais, je suis trop, etc. C'est pas un brave chrétien. Puis j'ai dû lui expliquer que même s'il était 100 fois plus mauvais, le sang de Jésus-Christ pouvait le purifier de tout péché. Mmh. N'est-ce pas? Et qu'il fallait croire au pardon de Dieu. Mmh. On trouve déjà comme ça. Un peu dépressif toujours, et puis qui passe beaucoup de temps à s'examiner eux-mêmes. Bon, c'est pas mal de s'examiner soi-même. Dans certains cas, la Bible d'ailleurs conseille de faire, explicitement, par exemple avant de prendre la Sainte-Seine. Mais, quand même, n'oublions pas de regarder d'abord au Seigneur. D'accord? Ce que vous êtes en Christ, si vous lisez les déclarations de l'Écriture, c'est déjà formidable. C'est déjà formidable. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et nous pouvons vivre dans cette nouveauté de vie et marcher dans la lumière. Il y a une promesse de Dieu. Et ce Dieu ne connaît pas l'échec. Vous me direz qu'il y a quand même les inquiétudes de la vie. Il peut y avoir le langage de la pénurie. Ben, pas trop pour nous quand même, hein. À vous voir et à me voir, mais par exemple, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Bon, ben, c'est probablement pas ça directement. On sait à peu près ce qu'on mangera demain, etc. Mais l'idée... Et quand même là. Et puis, rappelez-vous que pour des millions et des millions de chrétiens, ils ne savent pas s'ils mangeront quelque chose demain. Même il y en a beaucoup qui savent qu'ils mangeront rien du tout. Hein? Alors, c'est un petit peu, si on se laisse submerger par ce type de questionnement, comme, et c'est profondément illogique, comme si le Dieu qui nous a sauvés allait tout d'un coup nous oublier et nous laisser tomber. Ça ne tient pas debout. Vous avez été payé d'un trop grand prix par Dieu pour qu'il vous laisse tomber. Je je vous raconte une histoire qui s'est passée à Lausanne, dans une grande multinationale. Et le tout grand patron, que j'ai eu le plaisir de connaître, et qui était un chrétien, a eu un des directeurs d'une de ses entreprises qui a fait une boulette humaine. Il a englouti plusieurs millions de francs suisses dans une affaire complètement... un truc fada. Et alors, le grand patron l'a convoqué dans son bureau. Le gars tremblait. Il s'est dit, bon ben, je sais d'avance, il me fiche dehors, c'est prêt. Et après ce que j'ai fait, faire perdre des millions de francs suisses à l'entreprise, mon compte est bon. Et puis, le grand patron l'a fait asseoir, très gentiment, lui offrir un café. Et puis, alors il lui dit, le gars lui dit, quelle misère, quelle erreur j'ai fait, c'est terrible. Et puis le patron lui dit, écoutez, non, oui, bien sûr, mais vous m'avez coûté tellement cher, c'est pas maintenant que je vais vous ficher dehors. C'est vrai qu'il avait appris. Elle n'a jamais renouvelé la bêtise. Vous m'avez coûté trop cher. Ben, mes amis, vous avez coûté trop cher à Dieu pour qu'il vous laisse tomber et vous oublie. Ouais. Vous avez coûté son fils unique et bien-aimé. Et ça, il ne va pas vous laisser tomber. Et puis... il y a aussi pas mal de gens qui se demandent s'il y aura encore quelque chose dans les caisses de la sécurité sociale quand sera venu le temps, n'est-ce pas, de la retraite. Ne vous inquiétez de rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prévoyant, qu'il ne faut pas être intelligent, etc. On est d'accord. Mais faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons de notre côté ce que nous pouvons quand même. Et Dieu fera ce que nous ne pouvons pas. Alors, finalement, je dirais que notre vraie sécurité et notre assurance parfaite sont dans le Seigneur. S'il le faut, il nous emmènera, il nous enverra même ses corbeaux pour nous alimenter, ça j'en suis sûr. Et devant cette attitude, Jésus a dit aux disciples, Matthieu 6, 31, « Ne dites pas cela, ayez confiance, je pourvoirai à tous vos besoins. » Et le langage de l'insuccès attire le diable, et il irrite et attriste le cœur de Dieu. Les fameux murmures d'Israël, eh bien, ça irrite et ça attriste le cœur de Dieu. Rappelons-nous toujours que Dieu contrôle toutes choses et s'est engagé envers nous. Ne craignons donc pas. Refusons ces pensées de doute et de crainte. Le langage de la défaite ouvre aussi la porte au doute et à la rébellion. C'est toujours le jeu du diable. Alors, je pourrais vous citer encore d'autres textes, mais je ne vais pas allonger maintenant. Il y aura encore Némi 1, puis plusieurs autres. Verset 11 nous montre une prière pour la gloire de Dieu et qu'il ne sait plus à exaucer. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès. Vous avez le droit de prononcer cette prière. Donne-nous du succès personnellement. Donne du succès à l'Église, etc. Dans le témoignage pour l'Évangile, on peut dire, encore une fois, donne-nous du succès. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, il y a eu des gens qui étaient presque aussi terribles que Daesh aujourd'hui, c'était les nazis. Et les grands chefs nazis ont été justement condamnés à mort et exécutés à Munich. Hein ? Mais il y en a un qui a connu une vraie profonde repentance, qui s'est tourné vers Jésus-Christ, et puis qui a fini vraiment avec la paix de Dieu dans son cœur. C'était Franck, qui avait été un très haut personnage du régime, et qui a connu une vraie nouvelle naissance. Bon, tous les juges alliés du tribunal ont vu de l'évidence de son changement radical, voulaient lui laisser la vie sauve. Mais les Russes s'y sont opposés, ça c'est un chrétien de moins. Bon, alors il a été pendu. Mais même un bonhomme comme ça, Dieu le cherche et Dieu veut le sauver. Il avait beaucoup de sang sur les mains. Mais vous savez, le sang de Jésus, encore une fois, purifie de tout péché. Même si vous étiez mille fois pire que vous êtes, vous pouvez être sauvé. Voilà, j'arrive tout doucement à mon ultime conviction. Rappelons-nous que l'échec est provisoire. Vous êtes dans l'échec, ben c'est provisoire. Refusez de croire que vous allez être définitivement dans l'échec. Mais Dieu va utiliser l'échec pour vous amener, nous amener, à compter davantage sur sa force et sur sa grâce. Et je dirais, frères et sœurs, en sortant d'ici, ne confessons plus l'angoisse et l'échec, mais la foi et le succès. On va dire que ça va transformer aussi les événements. Ça a un effet. Ça transforme d'abord votre attitude, ça transforme, ça fait des transformations dans le monde invisible, etc., etc. Vous verrez, ça change. Et le Saint-Esprit veut nous donner un nouvel élan. Il veut nous bénir et nous renouveler. Ce que Dieu a donné hier, c'est pour aujourd'hui et demain. Il est écrit « Toutes choses sont possibles à celui qui croit ». Ah, c'est beau, ça. Toutes choses sont possibles. Moi, je dis, ça m'a galvanisé plusieurs fois. Vous êtes, mais quelle montagne, on n'y arrivera jamais. Et puis, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et finalement, succès est venu. Et je voudrais terminer avec une dernière anecdote. Peut-être qui s'adresse à une personne en particulier parmi nous ce soir, ou indirectement à plusieurs, ou que nous pouvons peut-être essayer de mémoriser pour expliquer lorsque nous sommes témoins de Jésus-Christ, nous sommes témoins de Jésus-Christ dans ce monde, les occasions nous sont données, au fond, le salut. Dans une grande propriété, c'était il y a pas mal d'années en arrière, un père a voulu faire peindre le portrait de son fils. Peu de temps plus tard, hélas, le fils est mort. Et puis ce fut le tour du père. À l'ouverture de son testament, le notaire a lu au personnel, parce qu'il n'y a pas d'autre héritier. Alors, il a lu au personnel le texte suivant. Qui veut le portrait de mon fils ? Et un vieil employé qui avait sincèrement aimé ce fils a dit « Je le veux, je le voudrais. » Et le notaire a alors continué sa lecture et il a déclaré « Celui qui reçoit mon fils recevra tout l'héritage. » Eh oui. Et si nous recevons le fils, nous serons tout l'héritage, nous serons co-héritiers avec lui, dit le Nouveau Testament, mes amis. Qu'est-ce que ce serait bête de passer à côté? Qu'est-ce que ce serait dommage d'avoir entendu le message de ce soir et de ne pas passer par les eaux du baptême en témoignage de vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous honorez Dieu en obéissant et vous êtes bénis en plus. En Apocalypse 3:20, Jésus affirme « Je me tiens à la porte, il se tient à la porte de notre cœur, de notre vie et je frappe. Si quelqu'un, chacun de nous, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen.
Amen.
Amen. Est-ce que nous sommes tous d'accord de marcher dans l'obéissance à Dieu, d'être de ces justes dont nous avons lu quelque chose dans les psaumes, et d'obéir quel qu'en soit le prix? J'ai mis un accent un peu particulier sur la question du baptême, parce que je sais que des fois, ça, là, il y a un problème. Mais c'est le diable qui veut vous empêcher d'être baptisé. Oh, j'entends des gens dire, mais je ne suis pas assez saint. Eh bien, si tu attends d'être saint ou d'être saint par toi-même, tu attendras longtemps, tu vas mourir et puis tu ne seras pas plus saint. C'est en obéissant au Seigneur que tu vas progresser dans la sanctification. Ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais voulu prendre la Sainte Cène. Oh, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez ici, je ne suis pas assez ça. Mais c'est un truc du diable qui vous prouve, me prive en même temps d'une force, d'une grâce qui est communiquée au travers du pain et du vin pris dans la foi et dans l'attitude intérieure qui convient. Je suis totalement persuadé, je ne suis pas catholique, je ne crois pas à la transsubstantiation, je crois que le pain reste du pain et le vin reste du vin, mais je suis convaincu en même temps, comme le réformateur de Zwingli, et au contraire de Calvin, que Jésus-Christ est vraiment présent pour nous au niveau de notre foi lorsque nous prenons la Sainte Cène. Et c'est une formidable bénédiction, mes amis. Et qui se renouvelle. Le baptême, c'est une fois. Alors, ratez pas, alors, celle-là. Hein. Mais la Sainte Cène, ça se renouvelle assez souvent. Alors, obéissons au Seigneur, marchons dans ses voies, et soyons vainqueurs avec lui. Amen. Seigneur notre Dieu, merci, merci pour tous ces bien-aimés qui se sont déplacés, qui sont venus lors de ces différentes réunions. Tu les bénis encore, tu les visites, et Seigneur, tu les bénis même dans leur sommeil maintenant. Loué sois-tu. Bénis cette église au-delà de tout ce que nous savons demander ou penser. Les bergers qui sont parmi nous aussi, bien particulièrement. Et leurs épouses, bien sûr. Seigneur notre Dieu, loué et béni sois-tu, convainc de t'obéir à toute personne qui a réalisé ce soir tel ou tel point, ou qui veut vraiment entrer dans une profonde communion avec le Dieu de victoire. Alors que nous sommes dans la prière, je voudrais, puisque c'est la dernière rencontre de cette mission, je me sens quand même pressé dans mon cœur d'inviter telle ou telle personne ce soir qui s'est sentie appelée par Dieu, qui a réalisé, voilà, tel point tombé. Peut-être je dois me faire baptiser, peut-être je dois mettre en ordre telle situation, ou autre chose. Et si vous voulez faire cette démarche devant Dieu, on est encore là ce soir, je suis prêt à prier pour vous, pour que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie, voir son miracle, et que vous soyez dans la pleine victoire qu'il veut vous donner.